belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, elle va être avec une femme que j'ai rencontrée devant le temple de la rue Maglone. Un échange rapide que nous avons eu à cœur de continuer derrière un micro. Elle va nous parler d'une association qui lui tient particulièrement à cœur et dont elle fait partie. Bonjour Jeannine Ménadier.
Bonjour. Oui, effectivement, je suis très heureuse de pouvoir parler à la radio protestante. Je suis d'une famille protestante très ancienne, descendant des Camisards. J'ai été médecin pendant presque 50 ans. J'ai eu 4 enfants, j'ai été praticien hospitalier et je m'occupais de la dermatologie de l'environnement, c'est-à-dire tous les objets, les substances qui peuvent attaquer la peau et de façon toxique ou bien allergique. J'ai créé justement cette consultation particulière en allant à Strasbourg, mais aussi en Angleterre et en Hollande, parce que ces pays et ces régions étaient plus en avance
que nous. L'association dont vous avez voulu nous parler, c'est l'AFDU. Voilà. Donc je vais en dire quelques mots. Donc c'est l'AFDU, A2FDU, c'est l'Association française des femmes diplômées des universités. Et donc c'est la section française de la Fédération internationale des femmes diplômées, le FIFDU, et qui s'appelle en anglais, juste pour savoir, le GGW1. Enfin bon, on aurait, comment William nous dirait ça, avec un bon accent. Et c'est une ONG qui a un statut consultatif auprès de l'ONU, il faut quand même le dire. C'est une association de loi 1901, Jeannine, hein, vous m'interrompez si j'ai des bêtises, qui est reconnue d'utilité publique et qui a été fondée donc, au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1920 par des femmes universitaires porteuses d'une grande ambition pour les femmes et convaincues que l'éducation des filles est à la fois un facteur de paix et la clé de la promotion des femmes. On a parlé, ça c'est une, enfin, là j'ai dit en deux mots la mission, le profil de cette association, mais je voulais vous demander d'en faire un peu l'histoire et peut-être, plus que nous en faire l'histoire, nous rappeler vraiment quel était le but de départ de cette association.
Oui, le but était quand même soutenu par des croyances, des convictions, qui sont des convictions religieuses. C'est une universitaire américaine d'origine protestante et huguenote exilée aux États-Unis, qui était devenue doyen d'une université new-yorkaise, qui adorait encore la France, qui est intervenu pour fonder notre association et qui, pendant près de 40 ans, l'a patronnée et l'a protégée pour qu'elle se développe. Elle s'appelait Virginie Crochereau. Les buts de cette association étaient quand même très généreux. Il s'agissait bien sûr de développer l'éducation des femmes, de faciliter leur promotion, mais surtout faciliter la solidarité entre les femmes et par des échanges, par des rencontres, permettre aux femmes instruites de s'exprimer, mais pour pouvoir promouvoir un idéal de paix et de progrès.
Jeannine, je vous arrête, mais 1920, c'est quand même une période où, bien sûr, il y a quelques femmes diplômées, mais on faisait référence en préparant l'émission à Glafira Ziegelman, qui a été une femme éminemment importante dans le milieu médical de Montpellier, qui n'avait pas le droit de passer son doctorat. Il ne faut pas oublier que le droit de vote, on l'a depuis 1947 quand même. Donc, et sur votre flyer, il y a une citation de Marie Curie, « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Enfin, la situation des femmes diplômées à la création il y a 100 ans, puisqu'on va fêter le 100e anniversaire, n'était pas pas celle d'aujourd'hui, qui n'est déjà pas toujours glorieuse. Donc, c'est cette femme, enfin Virginie Crocheron, là, qu'est-ce qui l'a motivée pour justement réunir avec elle en toute sororité, puisque bon, c'était des filles, en toute solidarité, de monter cette association ?
Elle était extrêmement féministe. C'était la seule fille dans une famille où il y avait plusieurs garçons, mais particulièrement, c'était la plus brillante. Mmh. Et heureusement, elle fut très soutenue par ses parents, et c'est pour cela qu'elle fit une carrière extraordinaire. Elle était donc particulièrement impliquée dans tout ce qui était féminin. Elle dirigeait une université destinée aux femmes.
En France, on n'en était pas là.
Ah non, pas du tout. En France, vous savez que nous n'avions pas le droit de vote. Il y avait l'accès au bachot était très difficile. De toute façon, pratiquement toujours, les femmes qui faisaient leurs études universitaires, lorsque elles se mariaient, devaient abandonner. La plupart du temps, c'était comme ça. Ça avait un peu changé à cause de l'importance des veuves de guerre qui devaient gagner leur vie. Dans les études supérieures, les problèmes étaient difficiles. Par exemple, ma belle-mère, qui était juge d'enfants, fut obligée d'abandonner son métier. Mmh.
Sauf quand les maris, d'ailleurs, et c'est l'histoire de Glafira Ziegelman et de Raïssa Kessel, puisqu'elles arrivent toutes les deux pour faire leurs études de médecine à Montpellier, et qu'il y en a une, Glafira aura été portée par son mari, qui leur a aidé, qui aura été facilitateur, et Raïssa, avec le père de Joseph Kessel, elle restera en définitive, ne poursuivra pas ses études. Il y avait, et vous le dites très judicieusement, l'entourage familial, et le compagnon qui permettait ou non à une femme d'accéder au diplôme. Vous avez fait vos études dans quelles années, personnellement ?
Moi, je les ai faites en 56-57 et jusque en 60-64.
Et là, vous étiez déjà après-guerre, vous vous sentiez légitime dans vos études ?
Ça a été assez difficile pour... dans ma famille, mon père, qui pourtant était
progressiste,
ouvert... Oui, progressiste, ouais. Mais pour les filles, il estimait que la médecine n'était pas adaptée. Donc, non. J'ai été même obligée, alors que j'avais passé l'externat à Toulouse, d'abandonner parce qu'il fallait que la fille devait suivre ses parents. Mon père était nommé à Montpellier et j'ai dû repasser le concours d'internat.
Et lui était médecin aussi ?
Non, il était directeur des douanes.
Quand on a échangé il y a déjà plusieurs mois toutes les deux, je vous racontais l'histoire de Françoise Héritier, donc une chercheuse célèbre, sociologue, enfin bon, qui est une femme extrêmement brillante et qui faisait et historienne bien sûr et qui était à une réunion de diplômés. Il y avait Duby, il y avait tous les penseurs historiques et que automatiquement le directeur de thèse a dit Françoise, vous prenez des notes. Et elle lui a dit non, pourquoi moi je prendrais plus. C'était Michel Perrault qui racontait ça. Et Michel Perrault et Françoise Héritier étaient très liées toutes les deux. Et donc, il y a encore, Michel Perrault, je crois qu'elle a 92 ou 93 ans, c'est des femmes qui ont fait des études dans les années 50. C'était pas du tout gagné quand même pour les femmes encore en 1950.
Oh non, bien sûr. D'ailleurs. Nos patrons nous regardaient avec, pas une pitié amusée, mais ils estimaient que nous n'étions pas du tout destinés à pouvoir exercer, ça c'est sûr. Et pendant assez longtemps, pour arriver à évoluer, dans cette profession, ça a été difficile. Mmh. Heureusement, moi, j'étais dans le service de mon mari, qui était déjà professeur de faculté et qui était chef de service. Donc, j'ai été protégée quand même relativement. Mmh. Mais j'ai fait partie d'un groupe de recherche, justement, pour tout ce qui était dermatite d'environnement. Et là, j'ai été très, très brimée. Ça a été difficile.
Ce mouvement, donc, enfin, cette association, donc créée, ça va faire 100 ans, au début regroupait qui plutôt des scientifiques, bon, on cite Marie Curie, on cite des médecins,
beaucoup de littéraires et d'anglicistes à cause justement des relations qu'il y a eu avec l'Amérique et puis l'Angleterre. Les femmes anglaises et les femmes... Il faut se rappeler que les femmes anglaises ont eu le droit de vote après la Première Guerre mondiale.
Bien avant nous.
Voilà. Et que nous, à deux reprises, l'Assemblée nationale avait voté le droit de vote des femmes, et c'est chaque fois le Sénat qui a arrêté.
C'est toujours une force progressiste, Sénat, on va dire. Allez, voilà. On va pas être méchante. Ces femmes, donc qui venaient d'univers de diplômes extrêmement différents, oui. Se sont retrouvées sur quelle valeur alors, sur le féminisme, parce que est-ce que par exemple c'était quand même des classes sociales un peu élevées?
Elles étaient en particulier à Paris, beaucoup étaient femmes. Leur mari était souvent universitaire et souvent les protégeait et les encourageait. C'est pour ça que à Paris, le climat intellectuel était très important. Et d'autre part, il faut penser aussi qu'il y avait tous les cadres de l'UNESCO qui était tout près, donc il y avait un caractère international dont on a profité très fortement l'association.
Déjà, vous êtes rentrée en quelle année dans l'association, Jeannine ?
Il y a 57 ans.
Oui.
J'avais 30 ans et c'est ma belle-mère qui était déjà dedans qui m'y a fait rentrer.
Donc vous avez quasiment été connue des créatrices du mouvement, des femmes qui étaient à l'origine du mouvement.
Parce que les femmes qui étaient à l'origine du mouvement, elles étaient en 1920.
Oui.
Et moi, c'était...
Mais elles étaient encore vivantes il y a 50 ans.
Oui, mais elles étaient... parisienne.
50 ans, c'est années 70.
Voilà. Et si vous voulez, il y a toujours eu un parisianisme assez important.
Ah oui, c'est fort,
parce que justement, très tôt, les relations internationales ont été très importantes. Et donc, évidemment, le fait d'être à Paris facilitait énormément les choses.
En préparant l'émission, vous avez plusieurs fois... je vous remercie d'ailleurs, parce que vous l'avez beaucoup préparé et vous êtes allé chercher beaucoup de données pour expliquer ce que c'est que l'AFDU. Mais on sentait qu'il y a quelque chose que vous vouliez mettre en exergue, vous vouliez vraiment m'en parler et le mettre en avant. C'est qu'en 100 ans, il y a eu un peu d'éloignement par rapport au but du départ et que vous aimeriez vraiment que l'association n'oublie pas quel était le but de départ.
Voilà. Nous avons eu, l'impression que parce que l'association pour avoir de la force, si on peut dire, et d'être reconnue, a utilisé la méthode des réseaux. Il y avait énormément d'associations féminines qui étaient nationales et qui existaient de toutes sortes. Et pour cela, notre association, par des rencontres, a essayé justement d'augmenter son pouvoir et surtout ses possibilités d'action. Et c'est vrai que grâce à ça, grâce des associations anciennes, mais aussi nouvelles, comme par exemple le lobby des femmes, par exemple le MLF, par exemple le comité ce qu'on appelle la CLEF, enfin donc. Et puis on y sont arrivés. En associant toutes ces associations, ils ont créé le comité Demain la parité. Et c'est grâce à ça que peu à peu, en 20 ans, les femmes, Donc, il n'y avait pas seulement notre association. Les femmes sont arrivées à interpeller les politiques, même interpeller en particulier Chirac, pour essayer d'avoir la parité. La parité à l'Assemblée nationale, la parité dans les associations. Et peu à peu, elles sont arrivées à ça. Mais si vous voulez, tout s'est centré sur justement cette parité, cette égalité. Et nous, à Montpellier, c'est vrai que nous n'étions pas à Paris, nous avons beaucoup plus œuvré pour tout ce qui était développement humain. Beaucoup de nos des femmes qui ont été à Montpellier ont eu des responsabilités importantes. Nous avions une nous avions une présidente qui était sévrienne et qui a été la directrice du centre d'orientation de Montpellier. Nous avons eu une autre là qui était professeure qui était professeure à la faculté des lettres et qui était intervenue pour promouvoir de façon internationale la francophonie en amenant dans énormément de pays étrangers des livres qui avaient été revus pour justement apprendre le français aux petits étrangers. Et elle y a travaillé avec son mari, d'ailleurs, qui était d'origine, qui était éducateur, lui aussi, enseignant. Et donc, elle a fait un travail remarquable. Mmh. Alors, ces femmes ont été admises à l'Académie de Montpellier qui est extrêmement vivante. Et parmi nous, parmi les Abdusiennes de Montpellier, il y a beaucoup de femmes d'académiciens. D'accord. Il y a toujours une symbiose entre l'académie et puis notre...
Autre question aussi que j'avais envie d'aborder avec vous, Janine, c'est 1924 de 2024, c'est 100 ans d'histoire, c'est 100 ans d'histoire forte d'une histoire du féminisme. Oui. Évidemment, vous avez évoqué l'importance des femmes après la guerre, quoique bon... Elles avaient été très utiles, on a vite oublié après. Hein, le pouvoir patriarcal est quand même revenu très vite. Après la Deuxième Guerre mondiale, 47, on a le droit de vote. De plus en plus de femmes dans les facultés. Et puis, je dirais que quand même, la grosse histoire, c'était il y a 50 ans, justement, c'est 74-76, l'avortement, les luttes féministes. Mmh. Je vois que vous êtes soutenue par la Librairie des Femmes. Évidemment, les combats du planning familial, de grandes figures féministes comme Simone Hif, dont on ne parle pas assez. Voilà. Quelle a été, je pense que vous en souvenez ça, encore, enfin c'est pas si loin pour vous, quelle a été l'attitude de l'AFDU à ce moment-là? Est-ce que, en définitive, ces femmes qui étaient toutes diplômées, quand même dans une certaine élite, a pris ce combat féministe à bras-le-corps ou pas? Vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de discussions. Parce que je reconnais que une partie des femmes était extrêmement militante et engagée, et d'autres étaient beaucoup plus conservatrices. Mm-hmm. Beaucoup plus. Donc il y a eu des problèmes de ce genre. Encore maintenant, justement, le fait que en particulier à Paris, on insiste sur la lutte pour l'égalité, etc. En province, on se sent beaucoup moins atteinte.
Militante. Enfin,
voilà, militante. On est beaucoup moins militante.
Et peut-être aussi qu'en province, il y a souvent ce phénomène de natabilité qui touche les hommes et qui a aucune raison que ça ne touche pas les femmes aussi. Oui. Quand on est diplômé et notable d'une ville, on n'est pas toujours aussi libre que quand on est à la fac à Paris.
Exactement, exactement, tout à fait. On ne se voit pas descendre dans la rue.
Non, mais c'est un problème. Bien sûr.
Des tracts. Mais par contre, on a comme possibilité, nous, les relations qui permettent en fait et de protéger et de d'aider à la création des choses
et de voilà. convaincre aussi peut-être
et de convaincre aussi exactement. Et donc, mais c'est vrai que nous avons eu la notion que, en particulier, l'utilisation d'Internet, parce que à Paris, il y a eu un essai d'association par l'intermédiaire d'Internet avec d'autres associations de femmes pour justement lutter en faisant des pétitions, en faisant des proclamations pour lesquelles il fallait signer, s'engager, etc. Et ça, nous n'avons pas tellement apprécié parce que nous avions l'impression que ça augmentait la violence des luttes entre les sexes.
Et puis l'association était repassée, elle reposait aussi sur l'art de l'échange et du débat et pas forcément sur des discours à reproduire.
Voilà.
Mais, Janine, je vous propose de marquer une petite pause musicale. On va écouter un peu de Chopin et après, on reviendra sur les outils qu'a l'AFDU pour se faire connaître. À tout de suite. Parle de l'AFDU en quittant les notes émouvantes de Chopin. C'est toujours émouvant d'écouter Chopin. Chopin qui nous a été suggéré par mon invité du jour, qui est Janine Ménadier. Janine qui représente l'AFDU, donc l'Association française des femmes diplômées des universités. Évidemment, on en parlait en off, Janine, l'AFDU, moi je ne connaissais pas, c'est pas une association, c'est pas la CIMAD, voilà, c'est pas une association qui a une visibilité énorme, mais pourtant, il y a vraiment une envie de se faire connaître, et notamment avec une revue qui s'appelle Diplômé, d'ailleurs. Hein, voilà, c'est une revue qui proclame la ligne, c'est Diplômé, qui aborde, avec des textes de femmes, des opinions de femmes, plein de sujets d'actualité, de société. Ça peut être la paix, le couple, l'amour, le futur possible. Voilà. C'était important d'avoir comme ça une revue, un média qui puisse parler directement des sujets abordés.
Le problème, en fait, était de pouvoir faire s'exprimer des femmes, justement, qui étaient diplômées et qui avaient quand même une conception féminine qui pouvait être tout à fait différente des convictions politiquement correctes. Donc là, il faut savoir que la revue s'appelle Diplômée parce que si elle est dirigée par l'AFDU, on fait appel à des femmes qui sont dans d'autres ligues féminines. Et vous pouvez avoir un article qui vient d'une femme du MLF, d'une autre qui vient du lobby des femmes, et voilà. Et si vous voulez, toutes ces femmes ne sont pas, n'affichent pas leur
conviction politique.
Voilà, exactement. Leur conviction politique. C'est vrai que comme ce sont toutes des doctorantes, des docteurs en sociologie, en littérature, en philosophie, il y a assez peu justement de scientifiques.
Ah oui, d'accord.
Il y a beaucoup de littéraires. C'est ce que nous avons à Montpellier pas mal de femmes qui ont une formation scientifique. Et si vous voulez, dans la formation scientifique, habituellement, l'analyse ne suffit pas. Et là, elles analysent les problèmes. Et nous préférons des buts particuliers dont on tire des conséquences. Nous admirons très très fortement justement la culture de ces femmes, mais c'est vrai que en province, l'application de ce qu'elles écrivent est difficile. Mais nous sommes très fiers parce que justement cette voix des femmes est reconnue, en particulier au niveau international, étant donné leurs compétences et leurs diplômes.
Et puis c'est toutes ces voix différentes qu'on peut retrouver dans Diplômées. C'est quand même, il y a plus de 280 revues qui ont été éditées. Il y en a encore beaucoup qui sont disponibles. Vous pouvez avoir le titre la liste des titres disponibles sur le site dont on vous donnera l'adresse à la fin, parce que cette publication, elle permet justement de faire connaître à tous les publics les réflexions de ces femmes diplômées de l'enseignement supérieur sur des sujets d'actualité, et justement aussi bien par le regard d'une scientifique que par le regard d'une sociologue, que par le regard d'une historienne. Voilà, c'est l'avantage de la revue, c'est que s'il y a 25 textes dans la revue, il y a 25 opinions, alors des fois qui se rejoignent. Voilà. C'est d'ailleurs souvent agréable d'entendre des débats entre une scientifique et puis Michel Perrault, par exemple. Voilà, en toute intelligence, c'est passionnant. Donc, il y a d'ailleurs, l'AFDU organise des salons, des tables rondes, des conférences. Bon, un peu plus sur Paris, les dates que j'ai trouvées. Bon,
Exactement.
Il y en a une qui vient de se passer avec Brigitte Joseph Jeannenet et Michel Perrault le 7 mars. Mmh. Et bon, on ne désespère pas d'en faire venir à Montpellier.
Bien sûr.
Je voudrais justement, pour revenir sur Montpellier, si vous voulez bien, Jeannine, parler des groupes locaux et de la force d'un groupe local. Par exemple, Montpellier, ça représente combien de femmes ?
Nous sommes une trentaine à peu près.
Et est-ce que vous disiez beaucoup que Montpellier, c'était autour de la science ? Est-ce que ce n'est pas parce que Montpellier est une ville aussi qui est tournée vers le médical ? C'est quand même la plus vieille, la plus vieille université de France. Et bon, c'est peut-être là.
C'est vrai. Nous avons beaucoup de médecins. De pharmaciennes et de personnes qui travaillent dans les laboratoires. Oui.
C'est aussi des histoires d'amitié. Je pense qu'on parlait de sororité, on parlait de solidarité entre femmes. C'est un beau mot, la sororité.
Hein.
Utilisons-le. Est-ce que ce n'est pas aussi justement une première femme médecin qui en a parlé, et puis on est resté plus dans le domaine de la science que peut-être une autre ville qui sera plus tournée vers la littérature ou l'histoire. Ça dépendra aussi des femmes qui auront été les premières à insuffler cette force de l'AFDU.
Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a eu, au cours de toutes ces années, il y a eu effectivement beaucoup de femmes médecins qui sont... Oui.
Et aujourd'hui, donc, vous êtes une trentaine. Vous vous réunissez à quel rythme ?
Eh bien, nous avons des conférences tous les mois, associé à un repas, tout le mois aussi des réunions de lecture. Nous, régulièrement, chaque année, nous choisissons un pays, nous cherchons des écrivains modernes qui, justement, sont connus et donc sont traduits, bien sûr, en français, qui est nouveau. Et chaque mois, pendant toute une année, nous prenons un écrivain et dont nous lisons les livres et nous en discutons.
Et vous remettez des prix aussi, Jeannine ? Il y a des aides, par exemple, comme je pense au prix Zonta Lab de Gouges, qui donne un prix.
Alors attention, ces prix-là, c'est surtout à Paris.
D'accord.
À Paris, il y a le salon du livre en novembre, Mais nous avons des femmes qui, de chez nous, qui ont écrit des livres et qui les présentent là-bas.
Oui, c'est un salon du livre qui a lieu tous les deux ans à la mairie de Paris du 6e arrondissement, voilà, hein, voilà. Place Saint-Sulpice donc.
Voilà.
Et c'est un salon du livre unique en France qui rassemble les auteurs de toutes les disciplines pour y présenter et dédicacer leurs premiers. Je ne le connaissais pas ce salon et je vais regarder. Il y en a eu un cette année déjà?
Oui,
ou
oui,
il faut attendre
oui,
dans deux ans.
Oui,
alors
oui, c'est en novembre d'habitude.
Ah, donc il y en a oui. eu un en novembre oui, 2023, voilà, donc voilà. 2025.
Oui, voilà, voilà.
Il faut que je reste dans le livre, alors, si je comprends bien.
De 2024.
D'accord, il y en aura un en 2024.
Oui, oui.
Génial, j'y
en
serai.
Principe, oui. En principe, oui.
Je note.
En principe. En principe.
D'accord, donc il y a quand même une volonté de l'association de se donner une visibilité.
Ah, oui.
Par contre, ces conférences et ces réunions, on est d'accord, c'est entre vous. C'est
eh bien,
pas
non.
ouverte au public. Ah,
non,
bah voilà.
non, pas du tout. Parce que justement, nous invitons des gens, enfin, ou bien, toutes les conférences sont gratuites. Les repas, nous invitons chaque mois deux ou trois personnes auxquelles nous payons le repas.
D'accord.
Et les autres viennent en payant leur repas.
D'accord.
Et nous avons beaucoup plus de monde comme ça, de façon à ce que les conférences sont suivies par des gens qui nous connaissent. Alors, nous avons la chance, je dois dire, à cause de notre proximité avec l'académie, d'avoir des conférenciers qui sont pratiquement tous des universitaires.
Oui. Donc, c'est des conférences pointues.
Ça dépend. Vous voulez que je donne...
Oui, ben, en donner quelques-unes pour avoir une idée, bien sûr.
Eh bien, écoutez, par exemple, nous avons, la dernière fois, nous avons eu un professeur de droit, d'histoire du droit, qui nous a parlé de l'évolution et des luttes entre le royaume germain, enfin l'empire germanique et les différents royaumes qui justement se sont peu à peu séparés de l'ancien empire germanique qui était issu de l'empire de Charlemagne. Et c'était très intéressant parce que justement on montrait comment par les symboles, par les tractations, par les peu à peu les royaumes s'éloignaient. Et nous en avons un autre qui nous a parlé de l'herboristerie de la faculté de médecine qui a 400 ans.
Oui.
Voilà. Et là, on nous a parlé en particulier des plantes érotiques. Classique.
Ah oui.
J'étais
libraire avant Janine. J'avais vendu un grand livre comme ça sur les plantes érotiques. Ça,
ben
ça
voilà.
existe vraiment. Hein,
voilà,
c'est pas...
exactement. Et puis alors, on a appris que qu'ils avaient beaucoup de succès, en particulier sur Internet.
Tout à fait.
Voilà,
tout à fait.
Exactement.
Tout à fait. C'était très intéressant à chaque fois. Donc ça, c'est une périodicité d'une fois par mois.
Voilà, une fois par mois.
D'accord.
Une fois par mois. Et puis, donc, tous les 15 jours, avec les réunions de lecture, il y a des activités. Et puis, chaque année, il y a une sortie culturelle. Voilà.
C'est une histoire d'amitié, par exemple, bon, vous êtes dans les 90, on va dire, un peu avant, un peu après. Vous avez quel âge, un peu après?
Moi, j'ai 87.
87. C'est depuis 50 ans dans ce mouvement.
Oui, oui.
Vous y aviez lié aussi des amitiés personnelles?
Ah oui, ouais. Ah oui, ça c'est sûr, parce qu'en se retrouvant tellement souvent, bien sûr.
C'est des belles histoires humaines, c'est pas que seulement un regroupement
non.
de femmes diplômées,
non.
c'est aussi
non,
des
non,
femmes
non.
qui aiment l'échange, qui
voilà.
aiment le débat,
voilà.
qui aiment s'enrichir.
Voilà. Et encore maintenant, nous voulons supprimer cette notion de lutte. Nous estimons qu'on arrive infiniment plus aux objectifs par justement la convivialité. Et simplement, évidemment, il faut une ténacité dans les buts et qui peuvent faire... prendre quelquefois des années, mais on y arrive.
C'est vrai que la lutte est parfois nécessaire, est souvent nécessaire,
oui.
mais elle peut aussi être problématique. C'est vrai qu'il
voilà,
faut aussi...
Il peut y avoir des luttes d'ego à ce moment-là et qui risquent de faire éclater les associations.
Et ça, il y en a dans toutes les associations.
Et ben,
je ne connais aucune association qui n'ait pas un jour ou l'autre traversé des luttes d'ego. Il y a forcément des gens qui veulent être
voilà, plus
que l'autre.
Exactement.
Là, ça, toujours. Toujours, toujours.
Mais nous en avons eu, en particulier à cause de ce problème de parité qui nous semblait vraiment excessif et être, enfin, paraître être une source de violence. Mm-hmm. Alors nous avons justement actuellement, nous essayons justement de reprendre une curiosité et de travailler sur le long terme.
Aujourd'hui, la présidente de l'association, c'est une femme diplômée ou
oui, c'est une philosophe.
D'accord.
Mais qui se dit philosophe de combat.
Alors, c'est qui? Vous pouvez donner son nom?
Attendez. Sonia Bressler.
D'accord.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons une protestante qui s'appelle Anne de Nègre, qui se trouve au Conseil d'Europe.
D'accord.
Et qui fait partie de l'AFDU, qui a été d'ailleurs présidente nationale de l'AFDU, qui est une juriste, et qui est intervenue en particulier pour faire changer au Conseil de l'Europe le terme de travail de sexe à propos de la prostitution par justement une définition différente, exploitation des femmes par le sexe.
J'ai fait toute une émission il y a 15 jours avec Françoise Mariotti, qui est une psychologue qui a combattu dans l'association d'Unis, dans de nombreuses associations contre la prostitution. Et justement, on a parlé de ce débat qui est fort dans notre société entre l'interdiction, le fait que... parce qu'il y a tout un mouvement de fond qui a été porté comme quoi, comme on est libre de notre corps, on est libre de se prostituer si on veut. Et Françoise, elle est très engagée contre ça, justement. Elle est pour une interdiction et vraiment que c'est pas possible, que c'est une marchandisation abominable du corps de la femme. Et comme d'ailleurs, elle a ouvert le débat sur la PMA, parce que c'est aussi une marchandisation. Et on pense, tous les gens qui sont contre la PMA ne sont pas d'affreux réactionnaires. C'est
bien
aussi
sûr.
Une pensée sur encore la marchandisation du corps
bien
de la
sûr,
femme.
Bien sûr, parce que ça entraîne des dérives qui sont
exactement.
Terribles.
Et c'est toujours, le pouvoir est toujours dans les mains de certains et c'est toujours les mêmes qui sont des oppressions. Et en définitive, que ce soit en tant que pour la PMA comme gardeuse d'un ventre, enfin voilà, on n'est plus qu'un ventre, on n'est plus qu'un sexe et on n'est plus tout ça.
Voilà.
Et ça, c'est des débats, par exemple, que vous abordez dans vos conférences, dans les échanges?
Oui, c'est vrai. Mais comment vous dire, nous sommes quand même très libérés de ce point de vue-là. Hein. Je dois dire que c'est vrai que nous sommes très... je suis tout à fait d'accord. Nous avons eu une de nos adhérentes qui maintenant a 90 ans, mais qui était professeure de droit et qui était spécialisée justement dans toutes les lois, les lois sur la famille. Sur le justement la PMA, la planification de la contraception, etc., de l'avortement. Et nous avions très régulièrement des conférences. Chaque fois qu'une nouvelle loi apparaissait, nous avions une conférence d'elle qui nous donnait les conséquences et les différentes façons de l'aborder. Voilà.
Janine, il nous reste 2 minutes. Hein. On se reverra, je crois.
Vous
on aura d'autres choses. Ouais, moi, je pense qu'on a encore des choses à se dire.
Bon.
On a encore des choses à se dire.
Oui, il y a des choses.
Ah, voilà, il y a plein de choses à se dire. Peut-être aussi ne pas hésiter à faire venir qui de ces femmes aura envie de s'exprimer avec nous, de faire des rendez-vous plus réguliers avec l'AFDU, parce que c'est que des belles rencontres, c'est que des femmes vraiment engagées. Si vous reste 2 minutes pour dire un dernier mot, je vous laisse la parole.
Eh bien voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que nous serions heureuses d'avoir davantage de femmes qui nous rejoignent. Il faut savoir que nous recherchons en particulier des jeunes retraités, parce que nous savons très bien que malheureusement les femmes diplômées actuellement ont beaucoup de difficultés pour militer dans autre chose que quelque chose qui soit différent de leur famille ou de leur travail. Et donc de nouvelles retraitées, oui, nous aimerions vous verriez que l'atmosphère est très détendue et sympathique, et nous avons besoin de vous.
Alors moi, je ne suis pas très diplômée, mais franchement, je ne suis pas très diplômée. En tout cas, moins que ces femmes. Et ça me donne vraiment envie d'aller vous voir et vous rencontrer, en tout cas. Ça m'a vraiment donné envie. Et de faire justement aussi que la radio FM+, qui est une radio protestante et qui est une radio active et ouverte, soit aussi la voix de l'AFDU. Ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup, Jeannine Ménadier. Merci à Manon Lamanette qui nous a accompagnés. Et puis à très vite pour une autre belle rencontre. Au revoir.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.